Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Saviez-vous que le Rendez-vous Tech est financé à 100% par vous? Oui, vous, les auditeurs qui choisissez de venir sur patreon.com/rdvtech pour participer au financement de l'émission. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement quelques patriotes: Panouerion, Sopelo, Cyprilius, Stéphane Cosine, Enlos, Bi Philippe et Charles Bonnard. Merci à vous! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et toutes les deux semaines, je reviens dans vos oreilles pour vous résumer toutes les choses importantes qui se sont passées dans l'actu du monde de la technologie pour que vous n'ayez pas forcément besoin d'aller éplucher tous les blogs de la Terre, toutes les news qui tombent par centaines. On regarde tout ça, on sélectionne celles qui sont importantes et on essaye de vous apporter un petit peu d'analyse et de compréhension en profondeur, mais en simplicité de tout ça. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette quête compliquée, j'ai le plaisir de recevoir Camille Suard qui nous vient de... Alors, est-ce que je dis de Frandroid ou comment je dois te présenter, Camille ?
C'est ça, journaliste tech chez Frandroid depuis quelques mois maintenant.
Très bien. Magnifique. Bah merci de te joindre à nous. Ça tombe bien que tu sois
merci
là.
Merci à toi.
Ouais, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on a c'est un petit peu je disais c'est la semaine ou les deux semaines de folie dans le mobile là. Il va y avoir quoi, il y a genre 5 téléphones majeurs qui sortent ou qui sont annoncés.
Oui, bah, il y a notamment la phablette de Samsung qu'on attend tous avec impatience, qui devrait être très bientôt, si ce n'est demain, présentée.
Ouais, le Note. Le Note 8, en fait, voilà.
Oui. Et puis l'IFA, bien sûr.
Ouais, bon.
L'IFA, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, ça va être. Et on a déjà, évidemment, un certain nombre d'infos qui commencent à fuiter.
Oui.
On a, on va en parler tout à l'heure, hein, mais on a le Pixel 2, on a des informations dessus. On a le Essential, qui n'est pas vraiment à l'IFA, mais le nouveau téléphone d'Andy Rubin, qui est enfin, va être disponible dans une semaine environ, aux États-Unis, en tout cas. Encore des infos sur l'iPhone 8, un nouveau Nokia qui est un petit peu flagship. Enfin bon, il y a plein de choses qui nous aidera à éplucher tout ça. Mais on va aussi parler du fameux mémo anti-diversité de ce programmeur de chez Google. On va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On parlera ensuite de toutes ces histoires de mobile, histoire de casser un petit peu l'ambiance lourde de ces sujets sérieux et polémiques.
Gros sujet.
Ouais, un petit peu. Et puis on aura donc l'autre sujet sérieux et polémique, les événements de Charlottesville aux États-Unis, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, mais on va parler surtout de l'aspect tech, parce qu'il existe et il est important... également. Et puis après, on aura plein de petites news dont on va vous parler, comme notamment un truc que j'ai trouvé magnifique, un moyen hyper intéressant de stocker de l'énergie, parce que vous savez que le fait de stocker de l'électricité, c'est hyper difficile et on a généralement des batteries pour ça. Bah, il y a un moyen hyper innovant qui fait partie de la tech en fait, mais un petit peu surprenant. Je vous tease ça, on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer donc avec cette fameuse histoire du mémo.
Le fameux.
Alors, c'est un petit peu difficile d'en parler sans être énervé. Ou je vais essayer de décrire de manière aussi neutre que possible. Et puis tu vas me dire, Camille, si la description te paraît appropriée, et puis on élaborera sur le sujet.
Ça marche.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines environ, il y a un mémo qui a été écrit par un développeur, un ingénieur de chez Google, qui a circulé dans la société pendant quelques semaines, et donc ce mémo a été rendu public. C'est un mémo qui était relativement long, je l'ai lu quasiment dans son intégralité, et il utilise une rhétorique qui est un petit peu, j'ai envie de dire, vicieuse, parce que il ouvre le mémo en disant « j'adore la diversité, je pense qu'il faut qu'on ait plus de diversité dans la Silicon Valley », ce problème dont on parle depuis maintenant des mois, un problème de déséquilibre dans la diversité, particulièrement entre hommes et femmes dans la Silicon Valley. Et lui, il ouvre en disant « je suis tout pour la diversité, mais… »
Le fameux « mais ».
Voilà.
On a tous entendu ça, je ne suis pas raciste, mais…
Mais, exactement. Et bon, même si je suis sûr que parfois, dans certains cas, il est possible d'être honnête et sincère en disant « je ne suis pas raciste, mais », je pense que là, c'est un petit peu un exemple d'une démonstration, entre guillemets, qui montre que quand on dit quelque chose « mais », généralement, ce qui vient avant le « mais », comme le disait Ned Stark, c'est pas vraiment, ça vaut pas grand-chose. Et en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je résume, il y a tout un développement, j'hésite pas vraiment à le dire, pseudo-scientifique, avec énormément de confirmations par biais, c'est-à-dire qu'il ne choisit que les informations qui confirment sa thèse, où il dit, en gros, les hommes et les femmes sont biologiquement différents. Mon téléphone même est d'accord. les hommes et les femmes sont biologiquement différents et il ne faut pas avoir peur de ces différences. Mais du coup, l'une des différences qu'impliquent ces différences biologiques, et tout le monde admet que les hommes et les femmes ont des différences biologiques, physiquement, très certainement, peut-être d'autres manières, mais lui, il va à la conclusion que les femmes sont moins intéressées, alors il prend des pincettes, machin, les femmes sont moins intéressées par, entre guillemets, les choses et plus intéressées par les relations. Et les hommes sont plus intéressés par les choses et moins intéressés par les relations. Et du coup, il dit sans dire que la conclusion à laquelle il arrive, c'est « bah oui, mais donc les femmes sont de moins bons… » Enfin, en moyenne, je dis pas toi en particulier, mais en moyenne, les femmes sont de moins bonnes programmeuses, de moins bonnes codeuses que les hommes. Et encore une fois, je fais un résumé, un raccourci, mais je pense sincèrement et honnêtement que la conclusion logique de son raisonnement, c'est ça. Et après, il dit « ah mais oui, mais non, mais il y a plein de femmes qui sont super bonnes codeuses, et d'ailleurs, les femmes qui sont intéressées par la tech, c'est super bien, c'est génial.
Oui,
mais
c'est génial.
Il ne faut pas qu'on force le fait de prendre comme codeur plus de femmes que faut pas forcer le truc. Et au final, je crois que si on veut donner une tournure un petit peu pas crédible, mais enfin acceptable au discours, c'est le grand débat éternel sur la discrimination positive.
Voilà.
Donc, lui, il parle même pas de est-ce que la discrimination positive est une bonne chose ou pas. Il est vraiment focalisé sur est-ce que les femmes et les hommes qui ont cette différence biologique évidente, est-ce que ça fait que les femmes sont plus ou moins intéressées par les choses ou machin, ou vous comprenez, ça veut dire qu'en moyenne, bien sûr, il y a des plein de gens qui sont bien dans tous les domaines, mais en moyenne, bien sûr, je parle pas d'une personne en particulier. Ok. Bon, alors première question, est-ce que j'ai bien résumé la chose? Et deuxième question, que penses-tu de toute cette histoire? Parce que, pardon, avant de te donner la parole et de me taire, il faut préciser qu'il a été renvoyé de chez Google suite au scandale que ça a provoqué. Bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés contre ce type d'idée, des gens qui se sont exprimés pour également ce type d'idée en disant que il est impossible d'être quelqu'un de droite, alors de droite américaine, chez Google, et que il y a une sorte de culture une sorte d'omerta sur les idées entre guillemets conservatrices, et que il y a une chambre d'écho libérale, encore une fois libérale américaine, donc de gauche américaine, aux États-Unis, et que les gens conservateurs ne peuvent pas s'exprimer et que c'est terrible. Ok, il a été renvoyé. Camille.
Oui, oui, voilà, c'est ça en fait. C'est donc à travers ces 10 longues pages de mémo, en fait, il se plaint principalement que Google pratique une discrimination positive sans vraiment la nommer, et que du coup, le fond du problème, en fait, c'est que Google ne prend pas assez en compte son opinion politique, qui est celle d'un conservateur. Et que du coup, Google serait la gauche américaine, encore une fois, mais bien pensante. Donc voilà. Et en fait, il a porté plainte contre Google auprès du Conseil national des relations au travail. Et normalement, il n'aurait pas dû être licencié par Google, puisqu'il est illégal d'être licencié ou même blâmé après une charge déposée. Mais soi-disant que le conseil d'administration n'a pas informé Google, qui n'était donc pas au courant. Donc,
oui,
déjà...
c'est-à-dire qu'il a porté plainte, et selon lui, Google l'a renvoyé après qu'il ait porté plainte. Il semblerait
voilà,
chronologiquement, et effectivement, il
voilà,
a porté plainte avant.
Il y a un problème chronologique, c'est ça. Ils sont
mais
pas
Google n'était pas au courant, en fait.
Voilà. Le monsieur aussi indique que beaucoup d'employés, enfin beaucoup, des employés ont soutenu ces propos, mais que ces personnes-là ont été harcelées par les RH et que du coup, ce serait en fait une sorte de suicide politique et ce serait un suicide de la part des autres employés de Google de soutenir ces propos.
Oui. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils se trouveraient du coup
voilà.
Harcelés effectivement pour leur vue qui serait de droite. Encore une fois, il faut comprendre le contexte aux États-Unis en ce moment. Il y a une sorte de victimisation. Alors moi, je pense pas que c'est justifié. Eux pensent que c'est justifié de la droite américaine qui dit ah oui, mais on peut pas exprimer nos opinions. Toutes ces histoires.
C'est
de
toujours
Donald
la
Trump,
même histoire. C'est le premier argument, la première défense, c'est la liberté d'opinion.
Ouais.
Sauf
et on va y revenir tout à l'heure.
Voilà, il y a quand même une grosse différence entre liberté d'expression et encouragement à la violence ou à la promotion de stéréotypes, ce genre de choses.
Mais alors, qu'est-ce que tu penses de ce mémo spécifiquement, de ce qu'il dit en fait, tout simplement ? Parce que je suis sûr que certains vont dire, oui, mais enfin... effectivement, le fait qu'il y ait des différences biologiques entre hommes et femmes est indéniable.
Oui, bien sûr que nous avons des différences biologiques, mais les rôles sociaux féminins et masculins, ils sont pas innés, ils sont fabriqués par la société. Donc il n'y a pas de, c'est une construction sociale, c'est des influences, c'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas être attirée ou pouvoir avoir les capacités de m'intéresser donc à la techno et aussi gérer le stress, parce qu'il y a aussi cette composante là c'est qu'ils pensent que les femmes ne peuvent pas gérer aussi bien la pression que les hommes. Notamment pour donc du coup pour les postes de direction donc il y a ça aussi comme quoi les femmes ne supportent pas la pression et que du coup c'est neurologique même hein. Il a même employé le mot neurologique, on n'est pas égaux face au travail.
Ouais, il y a quand même, enfin, le fait que les rôles des hommes et des femmes sont différents dans la société, construction sociale ou pas, je crois qu'on pourrait en débattre des heures. Moi, je sais de quel côté je tombe, mais ce qui est effectivement important dans son mémo à lui, c'est qu'il dit, encore une fois, je résume, mais les femmes font en moyenne sont de moins bons programmeurs que les hommes. Et là, on peut très clairement le montrer, c'est pas du tout le cas. Il y a une corrélation assez claire entre le moment où les ordinateurs sont entrés dans le quotidien des ménages, dans les années 80 avec la micro-informatique, et à ce moment seulement, les femmes ont commencé à être moins intéressées que les hommes, entre guillemets intéressées, par l'informatique. Avant ça,
Même si on revient sur l'histoire de l'informatique en tant que telle, les femmes étaient très présentes au départ. Hein.
Exactement.
Et Ada Lovelace, le premier programme a été écrit par une femme. Et c'est au fur et à mesure, au moment où c'est devenu, il y a eu de l'ambition, qu'elles ont été un peu poussées vers la sortie, si je puis dire.
C'est ça. C'est-à-dire que quand on a eu les ordinateurs qui sont entrés dans le quotidien des ménages, bah tout à coup, c'était plus un truc pour les femmes. C'était... Enfin bref, il y a plein de... Historiquement, il est assez clairement établi que juste pendant des décennies, les femmes étaient au moins aussi intéressées que les hommes. Enfin bon, bref, on va même pas rentrer dans cette question qui est un débat un petit peu stérile et un petit peu ridicule à mon sens, mais... Si on revient à la question du renvoi de ce type de chez Google, pour moi, on a toujours tendance à entendre ce discours un petit peu victimiste, genre ah, on nous laisse pas nous exprimer, machin. Mais imaginez un petit peu, d'une part, travailler avec ce jeune homme, et d'autre part, si ces idées devenaient courantes, les conséquences sur l'environnement de travail. Travailler avec lui, imaginez si vous êtes une femme et que vous êtes dans un meeting avec lui, tout de suite ça devient, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, mais enfin vous savez qu'il estime qu'en moyenne, oui mais c'est pas toi en particulier, mais quand même, il se dit, ah mais tu n'es pas aussi capable qu'un homme d'être un informaticien, et si, imaginez si on disait un truc comme ça de, je sais pas moi, des Noirs ou des Maghrébins ou un truc, enfin, ça ne passerait jamais, évidemment.
Jamais.
Et donc, il y a ça d'une part, et d'autre part, si les idées de ce type se répandaient, pour toute adoucie et suave qu'elle soit dans la présentation du mémo,
si on... Il y a eu la forme et...
Ouais. Bah, imaginons qu'on admette, ah bah oui, quand même, en moyenne, les femmes, elles sont un petit peu moins douées, hein, faut bien le dire. Mais comment est-il possible de travailler, quoi ? Tu peux plus avoir toute la possibilité d'avoir une légitimité en tant que femme dans ton lieu de travail et érodée. Enfin, je dis ça, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est déjà le cas aujourd'hui. Enfin, je sais pas si toi, tu as vécu ça, mais enfin... C'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est le fait d'en rajouter encore plus. Enfin bref, c'est pas possible de défendre ces idées qui en plus n'ont aucune base scientifique. Et du coup, pour moi, le fait qu'ils se fassent renvoyer, c'est un petit peu inévitable, quoi.
Oui, c'est inévitable, et surtout de la part de Google, qui est quand même enfin, c'est le revers de la célébrité, enfin, du succès. C'est quand même une image, c'était obligé qu'ils prennent parti, en fait. Déjà pour défendre sa propre politique qui est déjà assez claire à ce sujet, en tout cas dans la parole, peut-être pas forcément dans
les actes.
Voilà, mais en tout cas qui va en ce sens. Et en plus, Google se doit en fait de prendre position, elle ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Elle a un rôle quelque part à jouer, comme tous les autres géants. Enfin, c'était obligé. Ça aurait été une erreur de laisser passer une chose pareille en fait.
Bah, ne serait-ce que pour de potentiels procès pour discrimination à l'avenir. S'ils laissent passer un truc comme ça, du coup, dès qu'il y a un problème de harcèlement qui rentre dans le cadre d'une plainte,
Effectivement.
Bah, tout de suite, ça devient, bah oui, mais regardez, il y a des mémos comme ça qui circulent, Google ne fait rien, enfin... Et c'est en ce sens que, et c'est sur ce point que moi je vais conclure, et je te laisserai la parole après, en ce sens que ce type de raisonnement peut sembler cohérent à certains à la surface, mais si tu vas un tout petit peu loin que la surface, c'est pas possible d'accepter ce genre de discours, parce que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg qui est vaguement présentable, mais dès que tu plonges un petit peu plus loin, ça a des conséquences qui sont inévitables et qui mènent forcément à une discrimination. Et du coup, ce genre de question sort assez rapidement du débat théorique dans lequel voudraient le contenir ses partisans et rentre très vite dans une pratique qui est en réalité la question, est-ce que même avec tous les gants et les précautions qu'ils prennent, qui devient, est-ce qu'on est pour ou contre l'égalité et la discrimination, parce que il n'y a pas d'autres conséquences à ce à la comment dire à l'acceptation de ce type de rhétorique. Donc bon, bref, pour moi Google a effectivement fait le bon choix, et on va revenir sur les questions de choix un petit peu après quand on parlera des nazis.
Oui, on va parler des nazis.
Voilà.
Ça paraît dingue, mais.
Mais oui.
Hors contexte, mais oui, on va parler des nazis. Ouais.
Donc voilà, pour ma petite conclusion, je sais pas si toi t'as une autre conclusion sur ce sujet.
Bah en tout cas ça va loin quand même, parce que il est devenu un peu en peu de temps le porte-parole de tout un courant de pensée, même sur Twitter, enfin il a eu, je sais pas, son compte a explosé. Il y a même eu comment il s'appelle, c'est Chuck Nut Johnson qui a travaillé justement avec l'équipe de Trump, qui a lancé une plateforme de crowdfunding research où il a même créé une page pour des morts, et du coup en quelques jours il a eu je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de dollars. Ça a pris une ampleur considérable, et donc c'est normal. Ça il y a eu beaucoup de réactions d'indignation, mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup de soutien aussi de la part d'un courant assez d'extrême droite, tout simplement.
C'est la fameuse alt-right, et voilà. Ceux qui ont suivi l'histoire du Gamergate, sur lequel j'ai un petit peu écrit, d'ailleurs je le rappelle en ce moment parce que c'est c'est exactement le même.
Oui, ça fait totalement écho.
C'est les mêmes méthodes. C'est sont des gens qui se trouvent des égéries, des gens qu'ils peuvent mettre en avant pour défendre leurs causes qui sont moyennement défendables. Ils trouvent un prétexte. Dans le cas du Gamergate, c'était l'éthique dans le journalisme vidéoludique, pour faire avancer des théories de ce type qui sont, quand on les mène à leur conclusion logique, plutôt du côté de la discrimination, souvent sexuelle, parfois raciale. Et donc, sur mon blog personnel, patrickbeja.com, vous cherchez Gamergate, et j'ai une série de 3 articles qui traitent les 3 éléments du Gamergate différents, et qui, à mon sens, est une analyse assez juste pour montrer que, en fait, là aussi, on avait un prétexte qui était utilisé pour finalement uniquement soutenir cette rhétorique discriminatoire. Et là, on est exactement dans le même type de discours, avec les mêmes symptômes, les mêmes arguments, des défenses du type « Ah, mais ces gauchistes ne nous laissent pas nous exprimer. »
Ça, toujours la liberté d'expression, et on le fait passer pour un martyr, voilà. Ouais.
Bon, on va continuer à avancer, on va parler donc de nos histoires de téléphone mobile, et puis on reviendra à ce qui est une autre face de cette même rhétorique la droite alternative, voilà, de la droite alternative. Donc, parlons un petit peu de ces téléphones mobiles, tiens. On a eu des infos sur le Google Pixel, le Google Pixel 2. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce qu'on sait sur ce fameux Google Pixel 2?
Ce qui est intéressant dernièrement, c'est que il semblerait donc du coup que ce soit encore HTC qui ait fabriqué l'appareil. Puisqu'il y a un document qui a été remis aux autorités américaines qui sont chargées de réguler le marché des télécommunications, où on pourrait retrouver ce qui faisait un peu l'originalité du HTC U11, c'est-à-dire l'Active Edge, c'est-à-dire presser les bordures de l'appareil pour
activer un truc,
pour activer des fonctionnalités.
Est-ce que tu l'as utilisé, toi, ce fameux HTC avec ce Active Edge là?
Oui, je l'ai eu un peu en main, et alors c'est assez drôle au début.
Ouais.
Et en final, ça devient, c'est pas du tout naturel comme.
Ah oui?
Oui, c'est pas tellement naturel comme.
Action, quoi.
Voilà.
D'appuyer sur le téléphone, de le squeezer.
On n'a pas l'habitude, et c'est vrai que c'était pas. C'est Omar qui l'a utilisé plus longtemps, et pareil, ça l'a amusé au début, mais au final, c'est pas. C'est pas un comportement, gadget, voilà, c'est un peu ça. Ouais.
D'accord. On a vu également dans certains leaks qu'il aurait donc deux haut-parleurs stéréo, mais par contre, il n'a pas de port jack.
Oui, alors ça, c'est très drôle. Parce que si vous vous souvenez, c'est que l'année dernière, quand Google a annoncé son Google Pixel et Pixel XL, il faisait un petit talk à Apple qui, justement, lui, voulait arrêter avec le port jack. Et là, bizarrement, il semblerait, bien sûr, que Google fasse machine arrière.
Ouais. Effectivement,
revienne un peu sur son... Mais c'est ça qui était drôle, parce que l'année dernière, il s'était bien moqué d'Apple sur le sujet, et là, finalement, peut-être que... Mm-hmm. Voilà, on va forcer les choses aussi.
D'accord. Je crois qu'il y a un autre aussi modèle de Google Pixel 2. Il y aurait deux fabricants, si je ne m'abuse, pour les deux tailles. Peut-être que le plus
grand... Le XL
aurait... Ouais, peut-être que le plus grand aurait un port jack, mais bon, on ne sait pas.
On ne sait pas encore.
Et entre parenthèses, au moment où on enregistre, Android O vient d'être officiellement lancé et il s'appelle bien
alors
Android
c'est
Oreo.
Oreo.
Voilà, exactement.
Oui, c'est sûr. Mais on n'y croyait plus, en fait, puisque ça semblait tellement évident que...
Hop, évident.
On n'y croyait plus, voilà.
C'est comme KitKat à l'époque
voilà,
d'Android K.
Voilà, c'est pas la première
K,
fois qu'une marque... voilà.
Alors, il disait à l'époque de KitKat qu'il n'y avait pas d'argent qui avait changé de main. C'était un partenariat entièrement non financier. Peut-être que c'était le cas et peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui. Mais c'est la deuxième fois qu'une version d'Android utilise un nom commercial, un nom de douceur commerciale.
Petite pour, sucrerie.
Voilà. Quoi d'autre? Le téléphone Essential, donc la société d'Andy Rubin, va enfin être livré aux gens qui ont précommandé. Ça sera le 28 août chez Sprint aux États-Unis. Ils avaient eu donc un retard qui n'était pas passé inaperçu parce que ils avaient promis beaucoup et puis finalement, c'est surtout la société d'Andy Rubin qui est très attendue. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le développeur originel d'Android. Et les premiers retours que j'ai entendus sur le téléphone, les gens qui ont eu des versions de test, sont quand même très très positifs. C'est une version très très pure d'Android. Et en plus de ça, le design du téléphone est vraiment plaisant. Et pour ceux qui l'ont testé, ceux que j'ai entendus en tout cas, ils disent que c'est vraiment l'iPhone d'Android, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à un design vraiment épuré et qui est un objet, un bel objet, quoi.
Oui, l'appareil, enfin en tout cas les visuels qu'on a eus sont superbes. Hein. C'est...
Est-ce qu'on sait quand il va être disponible en France ou est-ce qu'on n'a pas encore de date?
Non.
D'accord. C'est oui, ils commencent avec une toute petite série, enfin toute petite, quelques millions aux États-Unis. peut-être qu'ils vont prendre leur temps. Enfin, c'est ce qu'ils disaient en tout cas. T'y crois toi à ce retour de Andy Rubin dans le monde du smartphone?
Je sais pas, j'attends vraiment de la voir en main parce que les premières informations qu'on a eues étaient un peu décevantes. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus premium, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, voilà, l'OS a l'air, c'est Ambient OS que ça s'appelle, je ne dis pas de bêtises. Oui, ça devrait être vraiment une expérience pure, comme tu disais. Donc, du coup, l'écran bord à bord.
Oui, c'est surtout
ça
aussi.
Ouais. On y vient. Après, il faut voir comment, si on regarde une vidéo par exemple, si la caméra frontale ne gêne pas en fait, si ça coupe pas ou ce genre de choses.
Ouais.
Et il y a les mods aussi, enfin le mods avec la caméra.
360, là, le
360
truc qu'on
peut rajouter, degrés, ouais. 65 degrés, ouais. Après, les retours sont pas très bons là-dessus, j'ai cru voir que c'était pas très optimisé encore.
D'accord.
Mais
bon, à voir. En tout cas, il est. Moi, je commençais à avoir un petit peu peur au début de l'été quand on a vu qu'il était en retard. Bon, là, visiblement, ils sont en train de sortir les modèles d'usine, donc on y arrive. Et les retours étant bons sur le design, ça peut être une alternative intéressante parce que le Android haut de gamme commençait à être déserté par ses acteurs traditionnels. Donc, on en a un de plus là.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Une nouvelle intéressante, pas directement sur les iPhones, mais sur iOS 11, donc de fait sur les iPhones et sur les iPads, une manière de désactiver l'accès par empreinte digitale aux iPhones et aux iPads. C'est-à-dire que quand on appuie 5 fois rapidement sur le bouton Power, ça oblige les utilisateurs à utiliser le code, le PIN, pour débloquer l'appareil. Et c'est hyper intéressant parce que, bien sûr, si vous êtes en train de vous faire agresser, quelqu'un peut utiliser votre pouce, ou si on a la confirmation de du déblocage par visage, par reconnaissance faciale pour le prochain iPhone, mettre le téléphone devant votre tête et puis le débloquer.
Oui, ça n'a jamais été un très bon élément de sécurité, ce genre de choses, finalement. Le capteur d'empreinte, pareil, c'est...
c'est possible, est possible de l'obtenir.
C'est pas tellement sûr.
Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que légalement, alors je connais pas très bien la situation en Europe ou en France, mais aux États-Unis en tout cas, il est possible légalement aux autorités policières de vous obliger ou de vous demander de débloquer votre téléphone avec vos données biométriques, donc votre iris, votre doigt, tout ça. Mais légalement, ils n'ont pas le droit de vous demander votre code PIN. Pourquoi ? D'accord. Parce que traditionnellement, enfin même pas traditionnellement, mais légalement, les données biométriques, donc votre empreinte digitale ou votre visage, c'est l'équivalent d'une clé. Donc c'est quelque chose que vous avez. C'est une clé et on a le droit légalement de demander à un suspect d'ouvrir un coffre, par exemple, pour découvrir les documents qu'il y a dedans. Mais on n'a pas le droit de lui demander de s'incriminer lui-même. C'est le 5e amendement, je crois. C'est bien ça. On n'a pas le droit de lui demander de s'incriminer lui-même. Et le fait de demander un mot de passe qu'il connaît, c'est l'équivalent du fait de lui demander de s'incriminer lui-même. Et ça se transpose au monde des téléphones mobiles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en train de passer une frontière et que vous avez des documents piratés sur votre téléphone, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous pouvez le bloquer de manière à être sécurisé légalement. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans votre téléphone, mais les conséquences légales de cette petite fonctionnalité me paraissaient vraiment intéressantes, quoi.
Je sais pas du coup en France comme tu disais. Creuser, oui, effectivement.
Il faudrait, si quelqu'un a cette information, si vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires de l'émission, ça serait sympa si on a un juriste parmi les auditeurs. Il faudrait peut-être que je demande à ma femme d'ailleurs, puisqu'elle est avocate. Mais oui, bon, donc si vous avez les infos, venez nous dire ça dans les commentaires de l'émission. Quoi d'autre ? Rapidement sur Apple, puisqu'on en parle. Troisième génération d'Apple Watch aurait une version avec connexion cellulaire et sans, mais aurait le même design, la même forme. Ils sont en train d'investir $1 milliard dans du contenu vidéo original. Quoi d'autre ? Ils pourraient se mettre à vendre des films quelques semaines après leur sortie au cinéma. Alors ça sera aux États-Unis,
parce que
en France, c'est pas prêt d'arriver. Et il semblerait que le fameux iPhone 8, pour revenir au téléphone eux-mêmes, soit disponible en septembre en quantité un petit peu limitée, mais tout de même en même temps que les iPhones 7S et 7S Plus. Donc finalement, on n'aurait pas ce retard qui avait été pressenti pour le modèle 8, le fameux modèle anniversaire. Donc voilà pour le côté d'Apple. On a donc plein d'autres téléphones qui font un petit peu de bruit. On a un Nokia 8 qui est un téléphone haut de gamme qui est fabriqué par HMD Global. On a des rumeurs, des screenshots leakés sur le LG V30. On a le Zenfone 4, le Zenfone AR, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses à retenir dans tous ces nombreux téléphones qui forme la phonepocalypse de la rentrée, selon ton opinion éclairée?
Le LG V30, moi, je l'attends. L'attends parce que le LG V1, qui était sorti l'année dernière, mais pas en Europe, il m'a fait de l'œil. Il devrait même régler quelques défauts du G6, et surtout, on l'attend en face du Note 8 et de l'iPhone 8.
Est-ce que c'est un téléphone vraiment haut de gamme, du coup? Moi, je connais pas bien LG. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'attends, justement?
Parce que c'est... déjà, LG, c'est une marque que j'apprécie plutôt, puisque elle prend quand même encore quelques risques. par rapport, par rapport aux autres géants. Le LG V30, par contre, il abandonnerait le double écran. Il n'aurait plus qu'un seul écran, mais il serait sans bordure.
Ah, donc encore un téléphone bord à bord, voilà, ça devient, enfin, ça. Ils seront tous comme ça d'ici 2 ans, quoi.
Et l'appareil photo a l'air très intéressant. Notamment pour l'ouverture de diaphragme, puisqu'il pourrait donc recevoir plus de lumière et ça pourrait faire des photos de nuit ou même de mouvement assez incroyables.
Ah, d'accord. Donc, il ouvre plus photo, que les téléphones, voilà. Que les smartphones habituels, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, niveau photo, c'est pas mal. Et puis, ça devrait être un très bel objet.
D'accord. Le Nokia, qui en fait n'est pas fabriqué par Nokia, mais qui s'appelle quand même Nokia, qu'est-ce qu'on pense? C'est un truc qui pourrait ramener Nokia sur le devant de la scène? C'est une prélude à un retour? C'est...
Est-ce que ça va vraiment ramener Nokia sur le devant de la scène? Je ne suis pas encore convaincue.
Ouais.
Mais apparemment, ça devrait être un bon téléphone. Mais
c'est celui-là. Je vois mes notes. C'est celui-là qui a le bofi, le truc pour prendre des selfies des deux côtés en même temps. Là, t'avais vu cette.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Hein, ça existait déjà.
Oui,
c'était déjà possible chez Samsung. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais que c'est possible sur Samsung et d'autres marques normalement.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'ils mettent l'accent là-dessus. Bon, c'est un côté un peu rigolo.
Oui, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est en fait, comme c'est la description, hein, c'est. On prend une photo avec les deux caméras en même temps et ça nous fait une photo avec un composite directement.
En même temps, du coup, c'est assez drôle.
C'est mignon, quoi. Disons que n'importe quelle app pourrait faire ça, c'est vraiment pas un problème matériel, je pense, c'est juste une question logicielle.
C'est ça. Après, voilà, il faut savoir qu'il va être commercialisé à 599 €. Donc, c'est déjà 200 € de moins que ce qu'on peut trouver pour un Galaxy S8. Il se positionne un peu de façon bâtarde, si j'ose dire.
Ah oui? Mais pourtant, c'est un Snapdragon 835, il a 4 Go
de
RAM.
C'est
un bon. Tu dis bâtarde, ça me semble péjoratif comme description.
Oui, bon. Je sais pas. C'est peut-être parce que je suis pas trop emballée, je sais pas. C'est.
Ouais. C'est juste, mais explique pourquoi t'es pas emballé. C'est que c'est un de plus ou
il a les marques chinoises en face de lui. Il y a ça aussi. Et du coup, il est encore. En fait, il est un petit peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver. Exemple. Et puis même, on a le OnePlus 5 qui est quand même un très bon produit. Qui coûte 100 € moins cher.
D'accord. Oui, donc c'est toujours cette guerre.
Voilà, il y a ça aussi. En fait, c'est pas. Je pense que ça sera pas. C'est pas un mauvais téléphone, mais il faut voir ce qu'il a en face de lui aussi quand même. Donc entre le OnePlus 5 et puis oui, voilà. Bon.
D'accord.
C'est ça.
Ok. Bon, voilà. Donc pour les impressions sur ces nombreux téléphones qui débarquent. De fait, pour nous, il y en a peut-être un petit peu moins. Je pense que c'est le Pixel 2 qui... Les deux qui sortent du lot pour moi, c'est le Pixel 2 et le Essential. Mais vu que le Essential n'est pas disponible en France, c'est forcément le Pixel 2 qui...
C'est ça.
D'accord, très bien. Eh ben, avançons avec notre deuxième sujet un petit peu polémique pour parler des événements... Pas spécifiquement des événements de Charlottesville, mais plutôt de ce qui s'est passé avec le site The Daily Stormer, qui est un site, là encore, très proche de la droite alternative américaine. Alors, je pense que vous avez tous vu dans les news ce qui s'est passé à Charlottesville, la réaction du président américain qui a été vivement critiqué par, à vrai dire, à peu près tout le monde, si ce n'est même la droite, la gauche, pour le coup, se sont retrouvés aux États-Unis, à l'exception peut-être de la droite alternative et des néo-nazis et des suprémacistes blancs. Et encore une fois, si vous n'avez pas suivi, c'est vraiment le cas. On parle de néo-nazis qui défilaient dans les rues. Il n'y a pas d'équivoque possible sur le sujet. On peut en parler sans invoquer le point Godwin, parce que là, pour le coup, c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais là où ça devient intéressant, c'est la question, enfin, là où ça devient intéressant, là où ça devient plutôt tech, c'est la question de ce qui s'est passé avec le site The Daily Stormer, qui est un des sites clairement néo-nazis, suprémacistes blancs, qui défend ce type de cause, qui, du fait de la polémique montante sur ces sujets dans la société américaine, a, en raison de certains articles clairement critiquables qu'ils ont publiés, se sont vus fermer les portes. Je crois qu'on peut le dire sans être 100%, sans exagérer, se sont un petit peu vus fermer les portes de l'Internet, finalement.
C'est ça.
Donc, leur premier hôte, c'était GoDaddy, je crois, leur a dit, on ne veut plus vous... C'est ça, hein, c'était GoDaddy.
C'est GoDaddy.
Ouais. Ils sont partis chez Google. Google, au bout de quelques heures, a dit « Nous non plus, on veut pas de vous. » Facebook a supprimé des articles.
Des pages, du Daily
même. Ouais. Même leurs pages, d'accord. Ça, j'avais pas...
Il y a même des pages des groupes. Tout ce se rapportait trop à Daily Stormer a fermé.
Au niveau du financement, ils se sont vus fermer les portes de GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo... Voilà, il y a Apple Pay et PayPal qui ont désactivé les sites de ce type de, de sites.
Il y a même Discord qui a fermé le serveur alt-right.com.
C'est ça.
Tous les comptes qui étaient en lien.
Reddit a banni des subreddits sur le sujet. Spotify a supprimé des listes de lecture, enfin des listes de, entre guillemets, hate bands. Enfin bon, il y a eu vraiment, il y a eu le plus gros contre-coup contre ce type de site qu'il y a eu depuis je pense possiblement le début de l'Internet. Et puis il y a eu l'histoire de Cloudflare. Alors il faut préciser quand même, c'est un truc dont on parle souvent, mais chez nous, si on parle de certains sujets, on a tout de suite l'idée que la liberté d'expression a des limites. Et généralement, ces limites sont traditionnellement l'incitation à la haine raciale et plus récemment, depuis quelques décennies, l'incitation à la haine tout court. Et donc, ce type de d'expression est illégal dans nos pays. C'est pas le cas exactement aux États-Unis. L'incitation à la haine, enfin aux États-Unis et dans les pays anglophones d'une manière générale, l'incitation à la haine en tant que telle n'est pas forcément illégale. La liberté de parole est quasiment absolue à partir du moment où il n'y a pas une incitation à la violence.
Oui.
Et là, parfois, la limite est un petit peu floue, mais enfin, sur le principe, c'est comme ça. Et du coup, le fait de dire je pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, en tant que tel, c'est pas illégal. Alors ensuite, il y a un truc qui est important, c'est que la liberté de parole est souvent associée à l'idée qu'on n'a pas de conséquences pour ce qu'on dit. C'est pas vrai. La liberté de parole aux États-Unis, c'est que le gouvernement ne peut pas vous condamner pour ce que vous dites. Par contre, rien n'empêche une société, par exemple, de vous renvoyer pour certaines opinions controversées que vous exprimez. C'est ce qui s'est passé dans le cas du mémo de Google. C'est ce qui se passe dans le cas de toutes ces sociétés qui refusent d'offrir leurs services à des entités qui expriment des opinions qui sont contre ce qu'ils estiment être acceptable. Alors, là où ça devient vraiment problématique, c'est un problème qu'a soulevé le président de Cloudflare. Alors, Cloudflare, c'est un service qui propose une protection contre les attaques de déni de service. Vous savez qu'il est assez facile de faire fermer un site en lui envoyant plein de visites par des bots, par des réseaux de bots. S'il y a un site que vous aimez pas, vous pouvez le rendre inaccessible très facilement et assez de manière assez bon marché. Cloudflare est l'un le service principal qui protège contre ça. Donc ça rend les sites toujours accessibles malgré les attaques des DOS. Et ils sont spécialisés sur ce genre de choses. Ils font très bien ce genre de choses. Et ce que disait Matthew Prince, le président de Cloudflare, c'est que il voulait rester complètement neutre dans toutes ces histoires, y compris, enfin, la comparaison qu'il donne, qui est assez bonne à mon sens, c'est, il dit, nous faisons de l'infrastructure. On est comme un distributeur d'électricité. on peut comprendre que, je sais pas, un Facebook supprime un article, mais on va pas se dire, bah oui, mais le EDF ne va plus fournir d'électricité à un groupe quel qu'il soit. Là, je pense que même nous, on se dira, bah oui, non, quand même, ça, c'est pousser le truc un petit peu loin. Et bah lui, Matthew Prince, disait, non, mais Cloudflare, on est comme ça, on est de l'infrastructure. Je déteste ces mecs, mais je veux pas leur supprimer le service. Bon, au bout d'une journée, il s'est réveillé de mauvaise humeur. C'est ce qu'il dit lui-même dans son article. Il dit, je me suis réveillé du mauvais pied. Ces mecs sont de vrais connards, donc je les ai supprimés de mon service. Voilà. Et j'aurais pas dû. Enfin, c'est pas. Il dit pas j'aurais pas dû. Ah, il dit.
Il y a pas. Il en a tout à fait le droit en fait. Ça, il y a pas de loi qui interdise les sociétés privées de refuser un service à des groupes spécifiques.
Exactement. Sauf que lui
c'est
dit.
C'est une catégorie protégée.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il dit il faudrait pas. Et là où ça devient encore plus intéressant, il y a deux éléments. D'une part, l'IFF. Donc l'Electronic Frontier Foundation, qui se bat pour les droits de l'homme et le droit à la sécurité, le droit à la vie privée systématiquement. Donc c'est vraiment, si on schématise de manière un petit peu ridicule, c'est vraiment la gauche des combats informatiques. Ils ont dit, oulala, faut se calmer là, parce que si on part sur ce genre de truc, ça peut très vite se retourner contre nous. Donc, en substance, qu'ils disent, c'est il ne faut pas refuser l'accès à ce type de site, même si tout détestable qu'il soit. Alors, ils sont un petit peu isolés dans les voies de la Silicon Valley. Et oui, ce qu'ils disent, c'est parce que ça peut dégénérer ensuite. Et si on supprime, si on coupe les voies de ces gens-là, ça peut ensuite mener à une...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Au fait que on ne sait pas qui va demander demain de couper la voix de personnes plus légitimes. Donc ils ont très clairement exprimé leur inquiétude et même dit qu'il n'aurait pas fallu que Google, Facebook, Apple, PayPal, machin, tout ça, coupent leurs services à ce site. Je conclue rapidement pour finir cet état des lieux. Ils ont trouvé un nouveau site de financement de crowdfunding, en fait, financement participatif. Non, pardon, excusez-moi, pas de crowdfunding. Un nouveau site, un réseau social qui est, là encore, qui défend la liberté d'expression, mais qui est vraiment dans la mouvance de la droite alternative, et pareil avec un hébergeur qui là aussi dit bah moi je m'en fous un peu de ces gars mais ça me fera un peu de pub, et puis je pense qu'ils ont le droit d'avoir leur site disponible aussi. Mais il faut dire quand même que quand on creuse, le type qui est le président de la société qui héberge désormais ce site, il a l'air quand même d'être pas spécialement à gauche non plus, quoi.
Ouais,
voilà.
Quand même impliqué.
Ouais. Donc voilà, débat un petit peu compliqué. Tu tombes de enfin, qu'est-ce que t'en penses? Je vais pas caricaturer en disant dans quel bord tu tombes, mais t'en penses quoi, toi, de cette histoire?
En fait, pendant longtemps, on a justement reproché aux géants du web de pas s'impliquer, de laisser les choses se faire, au sein de leur structure, mais aussi, enfin, même au sein même de leur entreprise, et et dans l'utilisation de leurs services. Et là, avec les événements de Charlottesville, ça a été, je pense, tellement violent que tout d'un coup, ils ont tout de suite pris la parole et pris des décisions assez rapidement. Tous, enfin vraiment, enfin tu en as énuméré quand même beaucoup, quoi. Et ils sont tous.
Et ça s'est passé en deux jours, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça a été très rapide, mais je pense aussi que ça a été tellement violent et tellement, enfin aussi avec l'accumulation ces derniers mois de toutes les histoires qu'il y a pu avoir, et puis avec le changement de politique aux États-Unis. Mais du coup, ça a été tellement violent, je pense, qu'ils se sont dit que là, c'est, enfin. Ils ne pouvaient plus rester cachés derrière, enfin rester silencieux en tout cas sur tout ce qui pouvait se passer. Donc du coup, forcément, ça pose beaucoup de questions du coup, à savoir, mais enfin, comment est-ce qu'il faut rester neutre? Est-ce que leur devoir c'est justement de rester neutre et de pas du tout s'impliquer, ou est-ce que justement, étant donné leur position, ils sont obligés de réagir. Et ça posait la question de la différence, enfin de la liberté d'expression et du coup la limite avec l'encouragement et la promotion de la violence.
Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Parce que quand même, l'IFF. C'est justement tout le contraire de la droite alternative. Le fait qu'ils disent eux, oula les gars, du calme. Moi, c'est le truc qui m'a arrêté dans mon emballement, en me disant, enfin non, évidemment, j'y pensais beaucoup avant, mais je veux dire, si même eux disent ça, est-ce que on n'est pas justement en train de s'emballer?
Est-ce qu'on n'est pas en train de
mettre un précédent qui pourrait revenir pour nous?
C'est ça, en fait. Là, après, faut voir comment ça va évoluer dans les jours et les semaines qui arrivent. Est-ce que c'était juste une réaction suite aux événements de Charlottesville, où là, il fallait marquer le coup et réagir vite. Et du coup, c'était juste,
C'est un coup de.
T'inscris
oui, je comprends
dans le
ce
temps,
que tu veux
voilà,
dire, quoi.
Machin. Ou est-ce que ça va être un changement de modération plus large qu'on va voir de plus en plus. Enfin, est-ce que maintenant ça va être systématique?
Ouais.
Il faut voir comment ça va évoluer.
Je crois qu'il y a effectivement cette manière de poser les choses qui est, oui, ben c'est un moment de cette histoire, et ça veut pas forcément dire que ça va arriver à chaque coup. Je vais quand même, il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais aux États-Unis ils sont pas aussi sensibles que nous à les questions de, enfin, la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, nous on l'a vécu, c'est dans notre culture, c'est dans, d'une part je dirais oui et non, parce que enfin faut pas remonter très loin pour voir à quel point les Américains ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale et dans le combat contre l'Allemagne nazie. Enfin, ça, c'est une évidence. Mais aussi, l'un des éléments fondateurs de ce mouvement à Charlottesville qui a tout lancé a été les suprémacistes blancs aussi. Et Dieu sait qu'aux États-Unis, le racisme, justement, si nous, on est peut-être plus sensibles au nazisme, admettons, bah eux, ils sont largement plus sensibles aux questions de racisme et d'esclavage. Et donc, bon, je pense pas que cet élément vaille. Par contre, une des choses dont je suis sûr qu'on entendra dans les débats, c'est, ah mais oui, mais regardez, si on a des sites de terrorisme, qu'ils soient islamistes ou autres, ceux-là, on n'hésite pas à les faire fermer, on ne se poserait pas les mêmes questions. Certes, je pense que c'est le cas, mais c'est un exemple qui vient se retourner contre les gens qui le présentent comme argument, parce que Cloudflare, la société de protection contre les attaques des DOS que j'évoquais tout à l'heure, qui a fini par supprimer Daily Stormer, donc le site en question, eh ben ils protègent des sites d'ISIS. Donc voilà, c'est exactement ça. Eux, ils se disent, nous, on protège tout le monde et on se pose pas la question, y compris des sites terroristes. Et terroristes, enfin, ouverts, c'est pas juste, voilà. Donc, Bon, pour moi, ce que j'en conclus tout ça, c'est que peut-être coloré par mon histoire européenne, il y a un moment, c'est quand même des nazis qui défilent dans la rue.
Voilà. Non, moi, je pense que c'est tout à fait naturel en fait d'avoir réagi aussi fortement et rapidement en fait. Là, c'était c'était trop violent, c'était là en fait, c'était dans la rue, c'était visible pour de vrai. C'était donc je pense que c'est normal. Ouais. Après, il faut voir si c'était une réaction à un moment donné ou si ça va évoluer.
Je crois qu'il y a effectivement, il faut voir comment ça va continuer à l'avenir. Il y a, je crois que tout le monde était dans son rôle finalement, parce que là où je pense qu'on a tous bien réagi, et même nous dans l'émission, je pense qu'on a la bonne réaction, c'est que ce type de décision ne se fait pas légèrement.
Non.
C'est une question qui se pose lourdement. Même dans le cas de sites aussi abjects que celui-ci, on le traite pas de manière légère et il faut jamais que ça devienne léger. Il faut jamais qu'on se dise oh bah pff, c'est des nazis, allez on s'en fout, on les bloque. Il faut toujours qu'on se pose très gravement la question, qu'on ait un débat sur le truc.
Bien sûr.
Et donc je pense que au final, peut-être même contre toute attente, tout ce débat et je pense qu'au final, même si la conclusion est il n'y a pas vraiment de débat parce que d'un côté, il y a des nazis et puis de l'autre, il y a les gens qui se battent contre les nazis. Donc, évidemment, c'est jamais équivalent. Mais au final, le débat s'est fait de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, on a bien étudié la chose, on s'est demandé si ça ne pouvait pas dériver et on s'est dit oui, c'est une question, c'est un acte grave. Notre décision est lourde de conséquences. On va la prendre en bonne conscience de ses conséquences. Et donc, je pense qu'il y a eu une énorme maturité dans la manière dont cette question a été traitée. Et c'était la bonne manière de le faire, quoi.
Oui.
Bah, écoute, on est d'accord, c'est très bien. On verra comment ça évolue à l'avenir. Moi, mon espoir, c'est que cette explosion d'inacceptable a jeté...
Calmer un peu les choses aussi.
Bah, a calmer un peu les choses et surtout a jeté une sorte de discrédit sur l'ensemble du mouvement alternatif, de droite alternative. Et ce dont on parlait au début, c'est lié... on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui parce qu'on a vu le vrai visage de ces gens. Alors oui, je suis sûr que cet ingénieur n'est pas un néo-nazi qui irait marcher avec des
des croix gammées dans la
voilà. Mais c'est la même mouvance. Et du coup, c'est un petit peu plus difficile pour les gens comme ça de se faire entendre. Quand ils ont le soutien, on disait il a été monté comme égérie de la droite alternative. Bah eux aussi, c'est la droite alternative. Donc du coup, c'est des voisins un petit peu difficiles à gérer, quoi.
C'est ça.
Bon, mais je suis sûr que vous savez qui sont les meilleurs voisins du monde. Eh bien, ces voisins, ce sont les auditeurs du Rendez-vous Tech qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com. La transition est habile, n'est-ce pas? Bon, vous le savez, le Rendez-vous Tech est soutenu par ses auditeurs, tout simplement, les auditeurs qui choisissent d'aller sur patreon.com/rdvtech et de donner de l'argent à cette émission qu'ils apprécient. J'aimerais remercier aujourd'hui Antoine Durand, Roi Fredouze. C'est Roi Fredouze, je pense que c'est Fred.
Fredouze.
Voilà. Le Royal. Denis Desseiger, un nom un petit peu, je sais pas, germanique. Tom BL, Asnor, Hockenheim et Aurélien Debrenne. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui le font. Vous êtes très nombreux à choisir d'aller sur le site Patreon, le crowdfunding, et je le rappelle à chaque fois, mais vous pouvez choisir combien vous donnez, même $1, ça suffit, ça compte, $1, $2, $3, ce que vous voulez, et vous pouvez mettre une limite mensuelle, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, il n'y a pas d'engagement, même pas 12 mois, il n'y a rien du tout, même pas 3 mois, vous pouvez choisir de le faire aussi longtemps que vous voulez, si ça vous plaît, si l'émission vous plaît plus. Et puis, si elle vous plaît, ben, pensez-y. C'est grâce à ça que on continue à financer l'émission. Et puis, surtout, ce que je dis souvent, c'est que le travail est important. Et donc, si vous pensez que ça vous apporte quelque chose, si ça vous apporte un petit peu d'éclairage sur les news tech, si ça vous apporte un bon moment, un moment de détente, eh ben, peut-être que ça vaut une petite somme, un petit café ou une petite bière pour l'émission. Donc, merci à tous ceux qui choisissent de le faire. Bon, on va continuer avec des news et des rumeurs un petit peu plus légères que tout ça. Parlons donc de ces histoires de trains à gravité pour stocker de l'énergie. Est-ce que tu as vu ce truc ?
Ah, j'ai vu passer très rapidement, mais je veux bien que tu m'expliques.
Eh ben alors, écoute, c'est absolument magique comme idée de simplicité et d'intelligence. En fait, on le sait, les problèmes de génération d'énergie sont surtout le fait de stocker cette énergie. C'est-à-dire qu'on a évidemment des moments, enfin tout le monde le sait, des moments où on n'a pas assez d'énergie pour tout le monde, où ça peut devenir tendu, et donc il faut en acheter ailleurs, etc. Et puis des moments où on en produit, mais les gens n'utilisent pas tout ce qu'on produit. Et le fait de la stocker, c'est hyper compliqué. Les batteries, ça coûte cher, ça n'a pas un super rendement, etc. Et puis surtout, si on veut stocker beaucoup d'énergie, bah la batterie, c'est pas vraiment possible. Là, ils ont eu une idée hyper maligne, c'est le fait de mettre sur des rails des blocs de concrete, de ciment. Donc tu mets sur des rails des blocs de ciment, c'est pas sur un réseau ferré, hein, mais c'est simplement des rails sur une colline. Et quand il y a de l'énergie, eh ben tu utilises cette énergie pour remonter les blocs sur la colline. Pas en super grosse pente, mais enfin, tu les remontes sur la colline. Tu utilises cette énergie qui est là en surplus.
D'accord.
Et puis ensuite, tu les bloques en haut de la colline. Et ensuite, donc, tu as cette énergie kinétique qui est bloquée en haut de la colline. Tu vois, avec les freins, tu mets n'importe quoi, tu mets une grosse pierre devant pour le bloquer. Et quand tu as besoin d'énergie ensuite, tu débloques le truc. Il va descendre la colline et avec, je sais pas comment ça s'appelle, du rétrofreinage ou enfin d'une dynamo quoi sur le frein, et ben tu génères de l'énergie avec cette masse, ce truc massif qui descend la colline. Et ils disent la société s'appelle Ares, dit pouvoir avoir 80% de rendement sur cette technologie. Moi, je trouve ça magique de simplicité et d'intelligence, quoi.
Oui, c'est ça. Simple et intelligent.
Ouais.
Et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ?
Mais exactement, c'est le genre de truc. Enfin, on aurait pu le faire depuis... Et la société, donc, s'appelle Advanced Rail Energy Storage. C'est la technologie. La société, c'est One California. C'est encore des Californiens. Je ne sais pas pourquoi.
Bah oui, mais non, mais il y a peu de secrets. Hein.
Mais voilà, donc je voulais en parler. C'est pas de la tech électronique, mais enfin, j'ai trouvé ça tellement intelligent.
C'est ingénieux, c'est intéressant. Effectivement.
Donc voilà, Ares, un moyen malin de subvenir à nos besoins d'énergie. Amazon est en train de lancer...
De révolutionner le distributeur automatique.
Encore. Instant Pickup. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir commander un truc et de pouvoir aller le chercher après quelques minutes.
Seulement.
Alors, c'est surtout sur les campus américains, d'universités américaines. J'imagine que c'est pour un certain nombre d'objets bien spécifiques, quoi.
Oui,
tu vas pas pouvoir commander ce que tu veux sur Amazon, mais...
Encore plus loin que Prime, en fait.
C'est
les casiers connectés, en fait, c'est ça. Hein.
C'est un peu c'est... ça, mais ils doivent avoir un entrepôt à côté, du coup.
Parce que
on parle même pas de une ou deux heures, c'est quelques minutes. Donc, c'est des casiers connectés au bout d'un entrepôt ou d'une boutique, quoi.
Du coup, oui. Encore plus rapide et encore moins d'interactions humaines.
est-ce que du coup, toi, tu serais... Bon, t'es plus étudiante, mais moi, je pense que je serais prêt... Enfin, étudiant ou même pas étudiant, quoi. S'il y a un truc comme ça, si j'ai des trucs dont j'ai besoin, je sais pas, moi, un câble ou une encre pour mon imprimante ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ce genre de truc. Ouais, moi j'utilise ça, il y a pas de problème. Quoi.
Bah oui. En plus là, c'est si j'ai bien compris, c'est situé à côté des campus. Donc ouais. Oui, ça c'est. Je n'hésiterai pas non plus, je pense.
Bon, ben voilà. Tu vois, tu contribues à la fin du contact personnel.
Mal.
Non, mais je sais.
Ça va. C'est juste pour quelques objets. C'est pas tout qui. On va pas tout avoir.
On dit ça, on finit par tous faire livrer par des drones en 2020.
Ah oui, c'est ça. En fait, on a pris une habitude aussi hein, de tout avoir tout de suite, rapidement. Voilà.
Est-ce que du coup, tu penses que c'est effectivement un problème de plus avoir cette entre guillemets interaction humaine avec les gens qui, enfin les caissiers à la Fnac ou parce qu'on parle de...
Je pense qu'on n'en est pas là encore non plus. Hein. Pour certains types de produits, pour certains besoins, bien sûr. Voilà. Enfin, moi, j'utilise Amazon comme beaucoup de monde, hein, je pense. Et pour d'autres produits et d'autres besoins, je vais vers les gens. Hein.
Oui.
Je vais dans des boutiques physiques. Je pense que tout ne peut, enfin, même si Amazon est en train de tout mettre sur sa boutique virtuelle, je pense qu'on aura toujours besoin de.
Ouais.
De se rendre physiquement dans une boutique et avoir quelqu'un en face de nous, quoi.
Oui, je suis assez d'accord. Moi, je me dis que...
Ça dépend des besoins, des voilà, faut pas...
Bah, pour des trucs genre, effectivement, des câbles et des machins comme ça, ou même la plupart des trucs informatiques, bon, surtout
oui.
Des gens comme nous, on est hyper geek, hein, on sait ce qu'on veut. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui pourraient être incluses dans ce type de système, mais ensuite, oui, tu veux acheter ton clacos pour le...
Les livres.
Oui, ça dépend. Alors parfois, tu sais quel livre tu veux, donc voilà. Mais
oui, ça m'est déjà arrivé d'acheter sur Amazon, mais bon. Voilà.
Oui, moi ça m'arrive souvent. Mais il y a plein de trucs pour lesquels effectivement, tu vas pas aller chez Amazon, à moins que tu saches. C'est bien quand tu sais déjà ce que tu veux.
Moi,
mais il y a
des
toujours des trucs.
Qui se font livrer des bouteilles de Coca-Cola quand même.
Ah oui.
Ah oui. Oui,
bah,
pour
tu sais...
Avid Prime, c'est facile.
Ouais,
puis
ouais,
quand
bah,
on
ouais.
est à Paris, bah voilà, c'est forcément ça.
Bah t'as pas envie de t'emmerder. Enfin, de toute façon, si tu vas à ton supermarché, souvent, si tu prends t'as ton stock de Coca pour le mois ou d'eau ou de ce que c'est, tu peux te faire livrer. Donc ouais, est-ce que ça change? Bon, peut-être. Je
Après,
sais pas.
Après, Amazon, ça vend qu'à l'unité, par exemple, les bouteilles de Coca.
Ah oui.
Oui, ça t'envoie pas les packs entiers.
Ah d'accord, ça doit se faire des bonnes marges.
En fait, je crois que c'est vraiment quand t'as un besoin urgent
pressant,
de ta bouteille de Coca.
En
une heure, tu l'as ta bouteille.
Je dirais que même là, tu peux quand même descendre chez ton épicier.
Sur Paris, enfin, il y a 36 000 épiceries d'ouvertes.
Mais tu sais quoi, le contact humain n'est pas forcément si loin de nous, même dans la technologie, puisque Facebook est en train de lancer Facebook Marketplace en Europe. Et voilà, c'est une sorte de Le Bon Coin, mais sur Facebook. Et le truc, c'est que alors, c'est bien ou pas bien, mais sur Facebook, tu peux savoir qui vend et qui achète, et t'as un petit peu une traçabilité, parce que c'est vrai que les trucs genre Le Bon Coin, c'est un peu la loterie, quoi, parfois.
Puis tu peux être conseillé par la communauté, donc c'est déjà un peu plus safe que Le Bon Coin.
Ouais, ça rassure, quoi.
Oui, voilà. Et puis de toute façon, oui, voilà, c'est vraiment comme Le Bon Coin, il n'y a pas de système de livraison, c'est soit PayPal, je crois, et espèces.
C'est
pas
ça.
De
ouais.
Possibilité de. Donc bon, c'est quand même sécurité.
Moi, je pense que ouais, je pense que je serais bien plus prompt à utiliser un truc comme ça sur Facebook que.
Bah,
j'ai déjà utilisé Le Bon Coin.
On va pas se mentir, mais sur Facebook, il y a des groupes qui vendent.
Oui.
Il y a des groupes qui vendent rien que les jeux rétro. Il y en a, je sais pas combien de groupes. Ça se passe comme ça. En fait, ça existe déjà.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc là, ça formalise le truc qui existe
voilà.
déjà. Ouais. Disney a annoncé son intention de lancer un service de streaming. Alors, c'est peut-être, ça regroupera peut-être Star Wars et Marvel, puisque vous le savez bien, Disney est maintenant propriétaire de tout ça, de Marvel et de Star Wars. Mais ils vont supprimer leur partenariat avec Netflix à la fin, enfin, ils vont pas le renouveler. c'est-à-dire fin 2019. Et ils vont lancer un service de streaming ESPN, qui est une chaîne de sport aux États-Unis, en 2018, et un service Disney en 2019, et peut-être des services parallèles, Marvel, Star Wars, ou les intégrer. Moi, je me dis, ça fait quand même... Enfin, il faudrait qu'ils soient pas chers quand même, si c'est uniquement Marvel ou uniquement Star Wars.
Mais tu imagines si tu as un abonnement pour chaque...
Bah oui.
Finir, ça, au moins, ça va te coûter cher quand même à bout d'un moment.
C'est sûr. Bah, s'il y a Disney, Star Wars et Marvel, moi, je me dis...
Oui, c'est un combo qui peut fonctionner, forcément.
C'est ça, ouais. Ça fait quand même beaucoup de contenu. Surtout s'ils ont tous les plateforme. Petits... Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, si c'est uniquement Disney, moi, je me dis, les gens qui ont des enfants, si c'est uniquement Disney, ça va être direct, quoi.
Ah oui, bien sûr. La question ne se pose même pas.
Ouais, exactement. Si, et bon, si c'est Marvel, je sais pas, combien tu payerais pour une chaîne uniquement Marvel ou une chaîne uniquement Star Wars?
Bah, je pense que je paierais pas.
D'accord, voilà, la réponse
en
est là.
En tout cas, Marvel,
c'est pas ton truc.
Pas spécialement.
D'accord.
Non, je sais pas, il faut pas que ça excède les ce qu'on a déjà avec Netflix, en fait.
Ah oui, non, mais bien
et
sûr,
encore,
uniquement Marvel,
encore,
beaucoup moins.
Et
moi,
encore, enfin, même moins, 5-6 euros, quoi.
Ouais. Ouais, moi, je dirais Marvel, s'il y a toutes les productions, genre les dessins animés, les séries télé, tous les trucs.
Oui, s'il y a vraiment tout, oui. Ça
ah bah oui, bien sûr. Oui.
Bien sûr, oui.
Je dirais, ouais, je sais pas, peut-être 5 euros, enfin, par mois. Faudrait, genre, je le prendrais un ou deux mois pour voir ce que ça donne et voir les trucs dont les gens me disent que c'est bien et... Et pareil, Star Wars, il y a plein de petites séries, genre des séries animées ou des séries en images de synthèse, genre les Clone Wars et les machins comme ça, dont plein de gens me disent « Ah ouais, c'est vachement bien » et que j'ai jamais vu parce que j'ai pas, enfin j'ai plus la télé. Je me dis « Oh, peut-être pour voir ce que c'est. » Mais oui, il faudrait pas que ça fasse 9 euros pour uniquement Star Wars, jamais de la vie, quoi.
Ouais, oui, non. Enfin, l'univers est dense, d'accord, mais quand même.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas assez. 10 euros pour Disney, Marvel et Star Wars, je testerai, je pense.
Ah oui, oui, largement. Je pense que c'est 10 euros, oui, pour les trois, ouais. C'est
possible.
C'est un très bon prix.
Une étude sur ce qui s'est passé, c'était où déjà ? À Austin, oui. Quand Uber et Lyft ont quitté Austin, parce qu'il y a eu des nouvelles régulations qui ont été implémentées, qui ont fait que, bon, on va pas repartir dans l'explication, mais Uber et Lyft ont disparu d'Austin après quelques années de présence là-bas. Et donc, il y a une étude qui a essayé de comprendre ce qu'avaient fait les utilisateurs de ces services après. Et c'est une opportunité unique de voir ce qui s'est passé quand les services de ce type ont disparu. Alors... 42% des utilisateurs sont passés à une autre société comparable. Donc, 42% ont continué à utiliser des services de voiture, enfin, de commande de voiture. 41% ont utilisé leur voiture existante au lieu de commander des Uber ou des Lyft. 9% ont acheté une nouvelle voiture et seulement 3% sont passés à un transport public. Alors, j'imagine qu'à Austin, le transport public, c'est pas comme dans les villes françaises ou en tout cas pas comme à Paris, quoi, où on a des très bons transports publics. Mais voilà, bon, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'est les chiffres qu'on a eu. 42% pour une société équivalente, 41% ont utilisé leur propre voiture. Là où c'est le plus intéressant, à mon sens, bon, 9% ont acheté une nouvelle voiture à eux, ok, mais ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 41% qui ont utilisé leur propre voiture, parce que je me dis que c'est des gens qui auraient peut-être, au bout de quelques années, décidé de ne pas renouveler leur voiture ou de se débarrasser de leur voiture, qui finalement, ils sont revenus. C'est là, à mon avis, que c'est le plus intéressant dans ces pourcentages.
Bah oui, en fait, faudrait voir dans d'autres villes... ce que ça pourrait donner, quoi. Oui. Parce que c'est sûr qu'Austin, j'imagine que c'est pas Paris, par exemple. Donc, c'est nécessaire d'avoir un moyen de transport fiable. Enfin, fiable.
Ouais. Bah oui, non, mais bien sûr.
Personnel et voilà, quoi. Parce que sur Paris, c'est le contraire, en fait. Il faut surtout pas avoir de voiture,
ouais.
Par exemple.
Ça, c'est certain, oui. Non, à Paris, c'est pas une bonne idée. Mmh. Ouais, gardez vos emails. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent une voiture à Paris.
Moi, je n'en veux plus.
Non, bah oui, on est plus en plus. Trad-free, c'est Trad-free, la gamme de chez IKEA d'éclairage connecté. Elle est compatible avec HomeKit et Hue, le Philips Hue, qui est l'un des trucs les plus populaires. C'est celui que j'utilise. Donc, voilà, j'espère que vous appréciez l'accent suédois. Hein. Trad-free.
C'est un peu italien, j'ai l'impression.
Ah oui,
je sais pas pourquoi.
Non, c'est bon. Enfin, c'est ma tentative de suédois. Hein, donc, mais oui, mais c'est moins cher que les autres. Et bon, IKEA généralement c'est des produits corrects. Donc voilà, juste pour vous rappeler que ils avaient annoncé qu'ils seraient compatibles avec HomeKit, mais c'est maintenant le cas.
Ils avaient tout intérêt, je pense.
Oui, bien sûr. Tu utilises toi de la maison connectée, enfin des objets connectés.
La domotique.
Ouais.
Non. Pas actuellement, non.
Bon, donc tu fais partie des gens normaux, contrairement.
Voilà, c'est ça. Mais ça m'intéresse. Je surveille ça de loin, quand même.
Ouais. Ben voilà, trop de free pour commencer à
tester. Jour où je pourrais tout faire depuis mon smartphone.
Bah écoute, c'est un petit peu chiant à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça marche. Quoi d'autre? Bon, je vais passer rapidement sur ce sujet, mais la France est en train de commencer à encourager l'Union européenne. J'avais l'impression qu'on en avait parlé la dernière fois, peut-être que je me répète, mais encourager l'Union européenne à régulariser les taux de taxation. Et ouais, évidemment, ça va être hyper hyper compliqué, mais je pense que c'est la bonne approche pour les problèmes les grands problèmes de taxation qu'on a en Europe. Et d'ailleurs, l'Irlande a annoncé qu'ils vont demander à contre-cœur les 13 milliards qu'avait imposé d'amende. C'est Apple, en l'occurrence. Les 13 milliards de rétro, c'était pas une amende, mais c'était une rétro-taxation parce qu'ils avaient, selon l'Union européenne, Apple avait bénéficié d'un taux de taxe trop bas.
2% et donc là, quand même. Hein.
C'est ça, exactement. 2% au lieu des 12,5%.
Tout va bien.
Voilà. Mais bon, bref, l'Irlande dit que non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, machin. Là,
ils ont fait appel, hein, de toute façon.
Bah oui, c'est ça. Et ils vont demander l'argent en attendant le résultat de l'appel, mais bon, de fait, ça lance un petit peu les choses dans ce domaine. Et le truc plus positif, à mon sens, c'est oui, ça va être compliqué. Oui, on est des dizaines à devoir se mettre d'accord et ça va pas être facile parce que tout le monde mais c'est bien de commencer à initier cette uniformisation parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
C'est la bonne voie, oui, bien sûr.
Quoi d'autre? Les États-Unis ont estimé, alors c'est pas la même chose qu'en France, on a plus de protection des utilisateurs en France, mais il y a une cour de justice aux États-Unis qui a estimé que les conditions d'utilisation étaient valables même si on ne les lisait pas. Et bon, généralement, ne nous mentons pas, on ne les lit pas parce qu'elles font 40 pages. Oui, bien sûr, toi, tu les lis tout le temps, Camille, d'accord.
Bien sûr.
Oui, donc tu pourrais me réciter, par exemple, les conditions d'utilisation d'Uber. Mais là où c'est intéressant, c'est que il y a certaines conditions d'utilisation qui disent que les utilisateurs renoncent à leur droit de faire un procès en groupe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, procès en...
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je n'ai plus.
Les class action, en fait, aux États-Unis. Et du coup, enfin, bon, peut-être que ça va monter un peu plus haut cette décision, parce que ça me paraît assez hallucinant de pouvoir renoncer à certains de nos droits aussi importants dans ces conditions d'utilisation qui sont aussi opaques, quoi. Bref, on arrive au dernier sujet de ces news et rumeurs. Bitcoin a atteint $4,000. $4,000 pour un Bitcoin. Et là, je me dis, j'aurais peut-être dû acheter des Bitcoins il y a quelques années.
Si on avait su.
Oui, j'en ai aucun, moi. T'as des Bitcoins, toi?
Non.
Bon, ben voilà. On est triste. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui en ont acheté.
Oui,
qui
sont ça
bien
prend de l'ampleur, hein, autour de moi. J'entends beaucoup de personnes s'y intéresser de plus en plus, de faire des analyses.
On est en plein dedans là. Mais là où c'est intéressant, on en avait parlé la dernière fois, c'est que la séparation entre Bitcoin Cash et Bitcoin. Alors Bitcoin Cash, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup Bitcoin n'a pas été affecté par cette séparation. Et la grande question, c'était est-ce qu'il y en a un qui va, est-ce que Bitcoin va perdre de sa valeur? Bah là, clairement non, quoi.
Et apparemment non.
Hein. Oui. Avec les ICO, Initial Cryptocurrency Offering, genre une sorte d'IPO mais avec des crypto-monnaies. On en parlera peut-être à un moment.
Il y en a plusieurs en plus, hein, des crypto-monnaies.
Mais oui, il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y a plein de gens qui font des levées de fonds par crypto-monnaie. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de suivre toutes les régulations et toutes les processus hyper compliqués qu'ils ont besoin de gérer pour faire une levée de fonds classique, enfin une IPO ou une même pas une IPO parce que ça c'est une entrée en bourse en plein, mais enfin bon, ça commence à initialiser, à permettre des méthodes différentes de gestion financière, quoi. Et quoi d'autre? Dernier sujet, il y a des chercheurs qui ont réussi à, alors là encore, tenez-vous bien, c'est un petit peu comme cette histoire de train à gravité là, qui ont réussi à encoder un brin d'ADN de manière à infecter les ordinateurs qui décodent des gènes d'ADN, c'est-à-dire qui lisent des gènes d'ADN en fait. Pour, vous savez, enfin tous les tests génétiques, c'est fait par des ordinateurs. Ben, il y a des chercheurs en sécurité informatique qui ont réussi à insérer un programme dans un brin d'ADN de manière à infecter l'ordinateur qui va analyser l'ADN d'un suspect ou d'un truc comme ça. Et du coup, ils réussissent. Je sais plus ce qu'ils ont réussi à faire exactement, mais je crois que c'était prendre le contrôle de l'ordinateur en question. Enfin, c'est science-fiction, quoi.
C'est ça, on y est.
Bon, en pratique, c'est pas hyper, c'est très spécifique, mais c'est intéressant pour l'avenir, quoi. Est-ce que ça peut, oui. C'est des trucs qu'il faut sécuriser aussi de cette manière. Là encore, les chercheurs sont dans leur domaine, mais pardon. Mais oui, c'est assez fou, quoi. Comme il faut être assez inventif quand on est chercheur informatique pour penser à ce genre de trucs. Enfin, voilà. Donc, pour nos news et rumeurs diverses, sur lesquelles on est passé un petit peu rapidement, j'espère qu'il y aura des trucs, il y aura eu des trucs intéressants qui vous auront amusé dans ces parties news et rumeurs. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais évoquer, Camille, ou est-ce qu'on arrive au bout de cet épisode ?
Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses déjà.
Ouais. Très bien. Bah donc, on est au bout. On va conclure.
Tu as suivi, j'imagine, un peu la Gamescom.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des trucs que tu voulais noter là-dedans. Je sais que t'es encore
que
plus
tu
gameuse
du... que qu'est-ce que tu penses de la Scorpio, la Xbox One X.
La Xbox One X, bah écoute, on en a pas mal parlé au moment de l'E3. Mon avis a pas tellement évolué. Non, je pense que comme les auditeurs du rendez-vous jeu le savent. C'est une console qui va avoir un public assez réduit et pour moi le gros la grosse motivation pour n'importe quelle console, c'est les jeux exclusifs. C'est vraiment la base d'une console d'une console de jeux, et je trouve que malheureusement la Xbox en manque et on a vu donc dans cette petite conférence qu'ils ont fait, qui était même pas une conférence mais enfin une vidéo de présentation qu'ils ont fait là aujourd'hui pour la Gamescom chez Microsoft, je les ai trouvés encore un petit peu faibles à ce niveau. Et du coup ils ont une politique qui est tellement hybride entre le PC, ils ont énormément poussé le PC, que je pense que les gens qui sont intéressés par la Xbox One X spécifiquement, qui est plus chère et plus puissante, mais plus chère, je pense qu'ils vont être proportionnellement assez peu nombreux, quoi.
Non, je sais pas, quelle est ton analyse, toi ? Les fans ultimes de la marque.
Ouais, tu penses aussi c'est un truc pour les fans, quoi.
De toute façon, ok, ça va être une console vraiment plus puissante que ce qu'on a actuellement, même par rapport à la PS4 Pro. Mais voilà, il y a le prix et il y a aussi dans le temps, qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Même si elle est mise à jour, tout ceci, tout cela, le hardware restera le hardware. Donc je ne sais pas, dans très peu de temps, elle sera dépassée par le PC.
Ça c'est toujours le cas de toute façon. Dépassé par le PC, oui, mais alors là je me fais un petit peu l'avocat, pas du diable, mais l'avocat de Major Nelson. Ils ont annoncé quand même plus d'une centaine de jeux optimisés pour la Xbox One X. Et si tu veux, on dit la fondation, c'est les jeux exclusifs, mais il y a quand même énormément de jeux qui sont disponibles sur les deux entre guillemets plateformes de la PlayStation et la Xbox One. Si tu veux jouer avec des graphismes vraiment optimaux, comparables à ce qu'on peut avoir sur PC, sans t'emmerder avec le fait d'avoir un PC haut de gamme qui en plus est genre trois fois plus cher que cette console, et tranquillement dans ton salon, bah pour le coup, la Xbox One X est hyper intéressante. Et les jeux, ils ont plus d'une centaine de jeux qui seront optimisés pour la Xbox One X. Si l'idée c'est d'avoir l'équivalent d'un PC haut de gamme, ou presque, hein, bien sûr, c'est pas le PC à 2 500 €, mais ou presque, pour c'est 500 ou 600, j'ai oublié, c'est 500. Hein.
Oui.
Euros.
500.
Pour 500 €, bah, c'est quand même une affaire, non?
Et tu sais, c'est quoi la plus belle exclusivité de la Xbox One?
Dis-moi.
Sa manette.
Ah, moi, j'aime bien les manettes PlayStation, mais...
Oui.
Mais tu préfères quand même les manettes Xbox?
Non, en fait, je pense que si j'écoute que mon cœur, forcément, je vais aller vers Sony, parce que j'ai toujours adoré PlayStation. Mais... objectivement parlant, là, c'est une perfection cette manette quand même.
Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Bah écoute, voilà une raison de plus pour aller vers la Xbox One X. Mais c'est vrai que quand moi étant joueur PC, je pense, bah, je me dis, bah, je m'en fous, j'ai mon PC. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça sera intéressant. C'est juste que la partie de la population qui va être intéressée par cette proposition spécifique, je pense, va être assez réduite. Mais même eux, ils en sont conscients. Donc ouais. Simplement
et très américaine sûrement.
Ah, cette présentation était hyper hyper américaine. Mais en plus c'était
chaque
marketing.
Conférence Microsoft c'est
ouais c'est un peu, je pense qu'on est un petit peu allergique quand même, ouais.
Ça transpire une culture qui est
particulière,
qui n'est pas enfin voilà, qui n'est pas habituelle, enfin
bah, le truc
c'est
que même
intéressant à observer, quoi, c'est très
Mais ce qu'il y a, c'est que même les conférences, on a l'habitude des conférences américaines, genre Google, Apple, Facebook, Amazon, ils en font tout le temps. Mais il y a dans le monde des consoles, et je crois dans le monde de Microsoft, des consoles Microsoft, parce que même Microsoft, bon, je dirais peut-être Panos Panay, il est un peu comme ça, grandiose, il fait des grandes déclarations et tout ça. Mais particulièrement dans le monde des consoles Microsoft, ils en font beaucoup, quoi. Et c'était moi, ça m'a. Enfin, je pense qu'on. Je sais. J'ai pas du tout encore vu d'analyse sur cette conférence-là. Mais il y avait tellement de marketing inséré dans le truc. C'était. Ils voyaient un trailer et c'était oh, amazing. It's so incredible.
Ça,
oh, the Xbox One X thing is so great.
Tout, et... la musique à fond.
Ouais. Et c'était
les néons
les
et
interviews.
Puis les voitures qui descendent du plafond, forcément.
Mais même les interviews qu'ils faisaient avec les développeurs de jeux qui sont disponibles sur toutes les consoles, bien sûr, ils sont là pour vendre leur beefsteak, et c'est normal. Mais tu vois, ils parlaient de leur jeu, et puis ils disaient « So, can you tell us how amazing it's gonna be on Xbox One X ?» Et ils disaient « Ah oui, sur Xbox One X, ça va être tellement mieux avec ce tel truc et tel truc. » Et c'est pas tellement... Parce que oui, objectivement, la Xbox One X, elle va pouvoir avoir un taux de rafraîchissement plus élevé en 4K, elle va faire de la bonne HDR, etc. Oui, elle sera plus puissante, mais les éléments de langage étaient un petit peu crispants. Genre, tu sentais les phrases écrites par les gens des relations publiques, tu vois, des relations presse, des trucs du genre... With the power of Xbox One X, we can render so many more polygons and we can render in true 4K. Et tu dis...
c'est tellement fou. Ouais. C'est un vrai show, en fait. Hein.
Et c'est un vrai show, mais... Enfin bref, on va encore me dire que je suis anti-Microsoft. On va encore me dire que je suis anti-Microsoft. C'est tellement pas le cas. J'adore Microsoft et il y a plein de trucs que... Enfin bon, bref. Mais
on pourrait en parler des heures.
On en parlera dans le rendez-vous jeu. Un jour, tiens, tu viendras dans le rendez-vous jeu et on geekera sur nos consoles préférées. Mais je reste quand même assez convaincu que pour un certain segment de la population, si vous voulez une machine super puissante, un petit peu plus chère que les autres forcément, mais beaucoup moins chère qu'un gros PC, et que vous voulez pas spécifiquement de jeux exclusifs PlayStation, eh ben oui, la Xbox One X, c'est une très bonne option. Donc bon, Voilà pour cette conclusion sur la Gamescom. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans ces premiers jours de la Gamescom, tiens, avant qu'on se quitte ?
Pas vraiment pour le moment. Je reste.
Ça vient de commencer. Enfin,
j'attends
on est dans les jours presse
la
encore.
Suite, en tout cas, parce que Microsoft, ça m'a pas hypé plus que ça.
Ouais,
enfin, c'est
une
de
conférence...
la redite et puis j'ai failli m'étouffer en voyant Record, donc. Ou Sea of Thieves, le.
Oui, oui. On l'évoquera dans le rendez-vous jeu. On en parlera un petit peu, effectivement, plus en avant. Bon, merci beaucoup de ta présence dans le rendez-vous tech, Camille. Est-ce que tu veux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet? Qu'est-ce que tu fais qui nous permettrait d'en savoir un petit peu plus sur tes activités?
Eh bien, je suis sur Frandroid, bien sûr. sinon je suis sur Twitter aussi et je suis en train de réfléchir pour monter un blog.
D'accord.
Pour discuter un peu de plein de choses, de jeux vidéo, de tech, mais pas que.
Ok,
donc,
très bien.
Donc c'est en cours.
Bon, écoute, le mieux donc, je mettrai comme toujours le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission. Camille, alors c'est compliqué parce que c'est Camille _ Suard.
Voilà.
Pourquoi deux _? tu veux pas faire comme tout le monde.
Wow.
remarque, au moins on le retient. C'est Camille _.
Voilà.
Camille _ Suard, ça sera dans les notes de l'émission. Merci à toi d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver sur frenchspin.fr les notes de l'émission. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire si on a dit des choses un petit peu trop bêtes ou un petit peu intelligentes aussi. Vous pouvez également aller sur, je dise pas de bêtises, sur iTunes pour laisser des commentaires et des reviews. Vous pouvez par exemple faire comme Hank Soon qui a dit toujours un excellent moment, un son toujours nickel. J'espère que c'est le cas aujourd'hui. J'utilise un matériel un petit peu différent qui avait un petit souffle. J'espère que bon, bref, un son toujours nickel, des sujets magnifiquement traités et très variés, un incontournable, des longs trajets matinaux. Merci Patrick, merci à toi Hank Soon et merci à tous ceux, Hank Soon qui nous vient de Belgique d'ailleurs. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes ou sur votre logiciel de podcast préféré. Et surtout, merci à tous ceux qui, comme je le dis toujours, choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous revenez de vacances, vous êtes devant votre ordinateur ou même sur votre téléphone. Vous pouvez très facilement aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Et devenir vous aussi patriote. Vous verrez, il y a des petites récompenses diverses comme des accès au contenu exclusif patriote que je fais des éditos de temps en temps. Il y a l'accès au Slack, au forum de discussion, enfin à l'outil de discussion des patriotes où on s'amuse bien tous ensemble, même pendant l'été, il y avait quand même du monde, etc., etc. Donc allez y jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech si ça pourrait vous intéresser. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode de l'été et n'oubliez pas que à la rentrée, dernière information hyper importante, donc le 16 septembre, on va se retrouver tous ensemble, entre amis, au Corcoran du Sacré-Cœur à Paris. On a une petite rencontre annuelle et ça sera comme toujours à ce bar sympathique, le Corcoran du Sacré-Cœur, le 16 à 16h. Donc le 16 septembre à 16h, j'espère que vous serez là nombreux. On s'était beaucoup amusés les années précédentes, donc j'espère que vous nous rejoindrez cette année et qu'on pourra passer un petit moment ensemble. Donc le 16 septembre au Corcoran du Sacré-Cœur. J'aaurai un article sur le blog de l'émission, le blog des podcasts, pour vous donner toutes ces indications aussi. Vous pouvez retrouver ça sur frenchspin.fr. Merci encore une fois à vous tous et toutes, et rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.